France Culture.
Le journal vous est présenté par Mélanie Kuzelevitch.
Bonjour à tous. Le bilan s'alourdit en Iran après une explosion dans le plus grand port commercial du pays. Les causes de la détonation sont encore floues. L'opposition accuse déjà les gardiens de la révolution. Où en sont les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ? Manuel Valls, qui arrive la semaine prochaine dans l'archipel en crise, promet de mettre un nouvel accord sur la table. Quelle quantité de carbone les forêts de chaque pays sont-elles capables d'absorber ? Le calcul fixé par l'accord de Paris est devenu obsolète. Il faut le changer, réclament des associations. En Iran, une épaisse fumée noire est toujours visible dans le ciel au-dessus du port de Seyd Rajaï. Une puissante explosion a fait au moins 18 morts et 800 blessés, selon un nouveau bilan. La détonation s'est produite dans le plus grand port commercial du pays, à 1000 km au sud de Téhéran, la capitale, sur le détroit d'Ormuz. C'est par là que passent 70% des marchandises du pays, en cause des produits explosifs entreposés dans des containers, Noé Pignède.
Sur les dizaines de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, une épaisse fumée orange et noire s'échappe du port de Seyd Rajaï. Un incendie suivi d'une puissante explosion. La déflagration a retenti à une cinquantaine de kilomètres à la ronde. Le port et ses alentours sont ravagés. Ce docker qui témoigne sur son compte Instagram vient d'échapper à la mort.
On ne sait pas ce qu'il se passe. Regardez ce carnage, c'est le chaos. Tout est détruit ici. Il y a beaucoup de travailleurs parmi les victimes. Il y a énormément de dégâts, beaucoup trop. J'ai de la chance d'être encore en vie.
Le service des douanes du port indique qu'il pourrait s'agir d'un hangar de stockage de marchandises dangereuses et de produits chimiques, mais sans en préciser la nature. Le président iranien ordonne l'ouverture d'une enquête, mais déjà sur des chaînes de la messagerie cryptée Telegram. Des opposants à la République islamique accusent les gardiens de la révolution d'avoir entreposé des explosifs dans le port. Selon la société privée de sécurité maritime britannique Embraer, ces produits chimiques en provenance de Chine devaient servir à reconstituer les stocks des missiles iraniens utilisés massivement lors des attaques contre Israël.
Les précisions de Noé Pignette de la rédaction internationale de France Culture. Au Canada, un automobiliste fonce sur la foule lors d'un festival à Vancouver. Il y a plusieurs morts et plusieurs blessés selon la police. Le conducteur est placé en garde à vue. Le festival en question rend hommage à un meneur de la lutte anticoloniale du XVIe siècle aux Philippines. Le Hamas se dit prêt à un accord pour la libération des otages et une trêve de 5 ans avec Israël. Déclaration d'un responsable du mouvement palestinien depuis le Caire après des frappes israéliennes qui ont fait 35 morts. Dans le même temps, le président palestinien Mahmoud Abbas organise sa succession. Hussein Al-Sheikh, un proche conseiller, a été désigné au poste nouvellement créé de vice-président de l'Organisation de libération de la Palestine, qui signe des traités internationaux et qui regroupe la majorité des mouvements politiques palestinien, mais pas le Hamas. Une initiative vivement critiquée par le mouvement islamiste palestinien. Le pape, désormais inhumé, les esprits se tournent maintenant vers le conclave pour lui trouver un successeur. 135 cardinaux se réuniront pour l'élire. La date doit encore être définie. Mais en attendant, 9 jours de deuil sont respectés à Rome. Hier, 400 000 fidèles ont rendu un dernier hommage au souverain pontife argentin. Ils pourront se recueillir sur sa tombe à Sainte-Marie-Majeure à partir de ce matin. Manuel Valls, toujours en quête d'un accord en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer retourne à Nouméa la semaine prochaine pour trouver un accord indispensable pour sortir l'archipel de la crise. Des mois de violences qui ont fait 14 morts et des milliards d'euros de dégâts déclenchés en mai dernier par le projet gouvernemental de réforme du corps électoral. Le ministre des Outre-mer multiplie les voyages sur le territoire depuis sa nomination et il compte réunir une nouvelle fois indépendantistes et non-indépendantistes autour de la table. Ils seront bien là, Charlotte Manvi, mais sans enthousiasme.
La décision a été actée tard samedi soir par le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste. La principale mouvance indépendantiste se rendra bien à la réunion organisée vraisemblablement mercredi par Manuel Valls, mais ce n'est que le lendemain que le FLNKS décidera ou non de poursuivre les discussions en fonction du nouveau projet d'accord que le ministre des Outre-mer a promis de poser sur la table. Voilà en effet un mois qu'indépendantistes et non-indépendantistes discutent en visioconférence sur sur un texte qui ne satisfait pour le moment personne. L'exercice du droit à l'autodétermination est jugé virtuel par le FLNKS qui dénonce par ailleurs le renforcement des provinces relevant selon lui du séparatisme. De leur côté, les loyalistes, la branche dure des non-indépendantistes l'ont fait savoir en milieu de semaine. Aucune concession ne sera faite sur ces deux points. On préfère ne pas signer que signer un mauvais accord, disent ses partisans de la Calédonie française.
À Nouméa, Charlotte Manvie. La piste islamophobe est privilégiée après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée du Gard. L'auteur est toujours recherché. Vendredi, le jeune homme d'une vingtaine d'années a poignardé un homme en train de prier. Il a filmé sa victime en insultant Allah et en manifestant son intention de frapper à nouveau. Certains États jouent avec les forêts pour réduire leur bilan carbone. De grands pays comme le Brésil et l'Australie surestiment la capacité d'absorption de CO2. Ils s'en servent pour ralentir leur sortie des énergies fossiles et prétendent respecter leurs objectifs climatiques. C'est ce que dénonce l'évaluation d'un observatoire international cette semaine. Les règles de calcul imposées par l'accord de Paris sont trop légères, insiste Climate Analytics. Il est temps de changer ces réglementations pensées il y a 10 ans, soutient Sylvain Enguerrand-Angerand, coordinateur des campagnes pour Canopée.
Effectivement, en 2015, au moment de la signature de l'accord de Paris, on n'avait pas des technologies aussi matures que le suivi par satellite, des outils d'apprentissage profond, d'intelligence artificielle. On voit que ces outils sont de plus en plus précis. Donc, il faut aussi se dire comment on peut les utiliser pour avoir un suivi beaucoup plus instantané de l'état de nos forêts. Et du coup, l'intégrer effectivement dans les politiques climatiques. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en ce moment, en Europe, il y a tout un débat sur la mise en place d'un système de suivi des forêts. C'est ce qu'on appelle le règlement sur la surveillance des forêts. Et les États membres et le Parlement, poussés par la droite et l'extrême droite, sont en train de vider ce règlement de toute sa substance, et notamment de ces fameux outils de suivi par satellite. Donc c'est juste un truc complètement dingue qui est en train de se passer. Et nous, aujourd'hui, notre attente, elle est vraiment d'avoir des méthodes qui soient plus robustes, quoi.
Et puis, un mot de météo, le temps est instable au sud. D'ailleurs, il y a des éclaircies. Il fait entre 6 et 14 degrés ce matin.